Ok, je te souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode des Entrepreneurs Nomades. J'espère que tu vas bien. On se retrouve dans un épisode que j'avais annoncé déjà il y a quelques temps. Ça faisait partie des épisodes que je voulais vraiment faire parce que je trouve que je pense qu'il risque d'être plus court, mais plus concret en termes d'action, entre guillemets, ou de conseils que je vais essayer de te partager en toute humilité. Mais j'ai essayé de te condenser, on va dire, 10 habitudes simples à intégrer pour 2024. Alors, elles sont pour certaines simples à comprendre et à intégrer, d'autres sont plus faciles à dire qu'à faire, mais tu vas voir que ce sont des habitudes que j'ai listées parce que ce sont des habitudes que moi-même j'ai intégrées dans mon quotidien depuis plusieurs mois, voire même plus pour certaines, et elles ont eu un impact concret sur ma santé, sur ma façon de travailler, sur ma façon de m'organiser, sur je sais pas, le plaisir que j'ai dans ma vie quotidienne, si tu veux, et ma façon à prioriser, organiser les choses, etc. Tu vas voir qu'il va y avoir à la fois des conseils pas mal axés santé, sommeil, etc. Des choses qui m'ont vraiment moi aidé, mais aussi des conseils un peu plus entrepreneuriales, c'est-à-dire par rapport à l'organisation, etc. Il y a sûrement des meilleurs conseils sur Terre, je prétends pas avoir les meilleurs, ce sont vraiment une liste de 10, et même il y en a un 11e un peu bonus, et je te conseille vraiment d'écouter jusqu'à la fin parce que le dernier, il est vraiment, ça fait des mois que je l'ai intégré, et c'est une petite révolution pour moi. Mais voilà, ce sont des conseils qui, moi, en prenant le temps de réfléchir, si je devais donner 10 conseils faciles à exprimer, à donner à des personnes pour avoir le plus d'impact et le plus de résultats, bah voilà ceux que j'ai listés. Alors, il y en a peut-être que j'oublie et peut-être que je me dirai après cet épisode-ci, putain, j'aurais vraiment dû dire ça, mais je pense qu'ils sont déjà intéressants et pas mal. Donc, sans plus tergiverser, rentrons directement. Le premier conseil que je te donne, ça va être vraiment de, là, en début d'année, en plus, et pourquoi j'en parle maintenant? Parce que je pense qu'en début d'année, c'est souvent un peu un synonyme, un peu de renouveau, voilà, on met en place de nouvelles choses, et ça peut être une bonne chose, même si pour moi, la vie est une continuité, mais ça peut être un bon moment si tu sens que tu as besoin de réorienter certains aspects ou de refaire le point sur certains aspects de ta vie, bah c'est une bonne période pour essayer de se dire, ok, voilà, je commence en janvier, là maintenant je mets ça en place et puis je tiens ça jusqu'à la fin de l'année. Donc la première habitude que je te conseille vraiment de mettre en place, c'est plutôt une action, mais ça peut être une habitude à faire ponctuellement. Ça va être de faire un énorme tri dans tes abonnements Instagram, YouTube. Et de manière générale, dans ce que tu consommes en fait sur les réseaux sociaux ou peu importe les plateformes sur lesquelles tu es. Déjà, pourquoi pas faire un tri dans le nombre de plateformes sur lesquelles tu es appliqué, parce que plus tu es abonné, plus tu consommes du contenu sur différentes plateformes, plus tu consommes du contenu et plus du coup tu vas être en se disant mais oui, je suis des gens intéressants, machin et tout, mais la fin de la journée, tu es quand même passif parce que c'est quand même un acte passif. Je vais pas te culpabiliser, mais c'est quand même un acte passif parce qu'en fait, au final, on consomme sans bouger. Tu vois, quand tu es dans ton canapé en train de scroller, regarder une vidéo, bah, tu fais rien. Tu vois, ok, tu apprends, tu accumules, mais si ça ne se traduit pas concrètement, et je pense que là, souvent, on se ment à soi-même, si ça ne se traduit pas concrètement par des actions, clairement, en fait, t'es passif en regardant les autres être acteurs de leur vie d'une certaine manière. Il y a une phrase, merde, je l'ai mal formulée, mais en gros, c'est t'es spectateur de la vie des autres qui sont en train d'être acteurs de la leur. Tu vois, ils sont en train de faire des trucs et toi, bah, tu regardes ce qu'eux font. Donc, bref, voilà, moi, je pense que c'est une très bonne chose à faire. Je le fais régulièrement. Et ce que je voulais préciser ici, c'est un sujet un peu plus délicat, mais je voulais quand même le faire passer, ce message-là, parce qu'il est extrêmement important à mes yeux. C'est, je te conseille vraiment, quand tu fais le tri dans tes abonnements, c'est de vraiment porter attention à l'état de santé des gens dont tu t'inspires. Je m'explique. Souvent, maintenant, on voit beaucoup de gens, tout le monde en fait, via les plateformes, peut exprimer ce qu'il veut, peut partager ce qu'il veut, peut dire comment il faut vivre, comment il faut penser, machin et tout sur tout. Sauf que sur plein de sujets aujourd'hui, d'idéologie, ben voilà, tu vas vite le comprendre, très woke, on va dire, etc. Bon, on va dire très gauchiste, même si les gars, je le dis à chaque fois, mais gauche-droite, il y a de la merde des deux côtés, les deux plans sont corrompus, ça sert à rien de voter à gauche et à droite, les deux sont contrôlés, donc vous embêtez pas avec ça. Mais il y a quand même des idéologies qui sont très souvent à gauche, maintenant, très progressistes, très wokistes, maintenant, comme on appelle ça, qui sont véhiculées sur les réseaux sociaux par des gens dont la santé mentale est complètement déglinguée. Et pourtant, ces gens-là continuent en fait de prêcher leur parole, de dire voilà comment il faut penser, voilà comment vous devez gérer votre vie amoureuse, voilà comment il faut penser, machin et tout, sur plein de sujets. Donc, si ce sont des gens que tu suis et qui sont souvent synonymes de crise d'angoisse, d'anxiété, de problèmes de santé mentale, de faire des burn-out, d'avoir des sauts d'humeur, etc., bah en fait, méfie-toi parce que tu es en train d'absorber en fait ce que ces personnes-là font. Et je ne dis pas qu'elles sont mal intentionnées, souvent, c'est des gens qui sont bien intentionnés au final, hein, tu vois, qui veulent vraiment prêcher une parole dans laquelle ils croient, mais ils n'ont pas compréhension du fait que c'est des idéologies qui sont volontairement mises dans la tête des gens. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail en particulier, mais pour te donner un exemple, quand même concret, sans du tout toutes les mettre dans le même panier, parce que c'est toujours plus complexe que ça, et c'est toujours à nuancer, et il y a des personnes qui ont des positions bien plus nuancées, donc encore une fois, maintenant, j'essaie de faire attention à tout ce que je dis, mais Tu vas avoir par exemple l'exemple de la néo-féministe, la féministe aujourd'hui très engagée, machin, et tout, sur n'importe quel sujet, dès qu'il y a un truc à table où on parle des femmes et des hommes, elle va forcément avoir son opinion extrêmement radicale sur oui, mais en fait tout ça c'est parce que le patriarcat, machin et tout, alors que non, l'histoire est beaucoup plus complexe que ça. Tu vas avoir par exemple cette personne-là, qui va très souvent véhiculer des idées en étant une féministe engagée, mais qui à la fin de la journée se retrouve au fond d'elle, et va parfois le partager, parfois non, mais assez seule, isolée, malheureuse, et qui te dit comment, elle, gérer ta vie affective. Donc cette personne-là qui au final se retrouve très isolée, très seule, pas mal paumée parce qu'elle n'arrive pas à trouver un homme, parce que clairement aujourd'hui si t'es un homme un petit peu sain d'esprit et que t'assumes simplement ton rôle de masculinité saine et d'homme entre guillemets dans la société, t'as pas envie d'être avec une féministe qui te reproche absolument tout ce que tu fais et juste d'exister parce que t'es un homme blanc, tu vois. Donc il faut pas s'étonner que ces personnes-là se retrouvent souvent en fait seules, et c'est pour ça aussi qu'on a une chute drastique. Je dis pas que c'est la faute des femmes, c'est toujours plus complexe que ça, mais les données sont quand même assez claires sur le fait qu'aujourd'hui c'est en énorme majorité les femmes qui rompent des relations de moyen long terme. Je vois ça même autour de moi, des très bons amis à moi qui étaient en couple depuis parfois 7 ans, parfois même plus de 10 ans. La femme maintenant, c'est toujours plus complexe et plus précis, et je vais pas du tout parler en le nom machin des personnes, mais c'est souvent la femme maintenant qui met un terme aux relations moyen long terme. Et non, c'est pas parce que maintenant la parole se libère, c'est parce que maintenant en fait on met des idées dans la tête des femmes qui fait que n'importe quel aspect, sur les six c'est pas parfait, en fait ça veut dire que l'homme est un vilain homme alpha, patriarcal, etc. Il faut vite s'en libérer, on sera plus heureux seul. Alors qu'à la fin de la journée, bon, je pense que c'est quand même plus à nuancer que ça. Mais voilà, j'ai encore une fois digressé sur un sujet, je suis vraiment désolé. Mais voilà, c'était pour te dire que voilà, si tu suis ce genre de compte-là, par exemple, qui véhicule beaucoup ça, demande-toi, est-ce que cette personne vraiment qui véhicule son idée, sa façon de penser, qui a l'air tellement convaincue par ça, est-ce qu'elle est vraiment plus heureuse à la fin de la journée? Est-ce que c'est une bonne influence pour moi? Est-ce que ça va pas, moi, me mettre des idées qui vont me desservir à la fin de la journée? Donc, encore une fois, ça peut, là j'ai pris un exemple, bon, désolé, je suis un peu bête d'avoir pris un exemple qui est autant sujet à polémique, mais j'aurais pu prendre n'importe quel autre sujet sur lequel, au final, tu te rends compte que la personne te dit comment faire, comment agir dans tel domaine, mais voilà, on peut prendre l'entrepreneuriat, ce serait quand même moins à débat, mais une personne qui te dit comment entreprendre, mais qui au final n'a pas l'impression d'avoir vraiment beaucoup de réussite ou de succès, qui est quand même encore pas du tout indépendante d'un point de vue, et ça c'est très complexe à savoir, parce que les gens en fait souvent ils vont pas vraiment dire s'ils vivent vraiment leur activité à temps plein ou pas, et donc ils peuvent très bien avoir un job sur le côté et prétendre en fait entreprendre et avoir des clients machin et tout. Donc il faut entre guillemets que tu sois presque un peu persuadé de constater dans la vie de tous les jours de cette personne là qu'elle est visiblement heureuse, épanouie, qu'elle fait quelque chose qui lui plaît, qu'elle a du sens dans sa vie, etc., pour t'en inspirer. Et faire attention du coup à plutôt des gens qui vont prêcher des paroles mais qui en fait à la fin de la journée sont pas forcément plus heureuses et ont plein de santé, de problèmes de santé mentale, parce que ça c'est un truc qu'on voit vraiment énormément et ça me fatigue. C'est que les gens utilisent les plateformes, leurs plateformes, comme un espace de thérapie, en fait. Ils font leur thérapie sur les réseaux sociaux, sur les vidéos YouTube, sur machin. Pour moi, il y a des spécialistes pour ça. S'il y a des psychologues, des gens qui étudient la psychologie humaine pour les aider, etc., c'est pas pour rien. Je pense que c'est la pire chose à faire potentiellement sur Terre que... Alors non, on va me dire, oui, mais c'est bien parce qu'en fait, il faut en parler, il faut que ce soit... Non, moi, je pense qu'il y a des sujets qui doivent être traités de son côté, en fait, et on n'a pas besoin de devoir exprimer absolument tous ces problèmes sur Terre, parce qu'en fait, on propage de plus en plus de ces problèmes d'une certaine manière sur les plateformes, etc., et c'est pas ça qui va régler les problèmes. Je pense pas que c'est comme ça que ça fonctionne. Je pense que c'est plus en faisant un travail sur soi, en comprenant quelles sont parfois la cause de certains traumas, etc. Et ça, en fait, pour moi, ça se règle plus de l'ordre du privé. C'est comme aujourd'hui la libération de la parole sexuelle, machin et tout. Non, je suis désolé, moi, j'ai pas envie que mes futurs gosses, en fait, tombent sur du contenu tout le temps, en plus expliquer, libérer le sexe, parler du sexe aux enfants, etc., comme on le pousse maintenant dans les écoles par les gouvernements qui sont dirigés par des dégénérés. Non, je suis désolé, c'est des choses, encore une fois, il y a des choses qui sont du domaine du privé, et c'est très bien que ça reste du privé. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a des plateformes qu'il faut absolument parler de tout le temps. Je pense qu'il y a des choses qui sont bien mieux gérées chez soi, et c'est très bien comme ça. Bref, du coup, t'as compris l'idée, mais je ferai beaucoup plus court sur les autres habitudes. Celle-là, il y avait forcément une digression, parce que je pense que c'est un message que je veux vraiment faire passer, c'est que faites attention aux personnes que vous suivez. Elles ne sont pas mal intentionnées, mais au final, elles font potentiellement plus de mal que de bien, et encore une fois, tu es ce que tu absorbes. Donc, si tu absorbes beaucoup de personnes qui parlent tout le temps de leurs problèmes, en fait, ça va finir par t'affecter, et ça va finir par toi potentiellement te faire avoir certains de ces problèmes-là, d'une manière ou d'une autre. Bref, je pense qu'une des choses les plus précieuses qu'on a à l'ordre actuel, là qui nous reste, c'est là où on met notre attention. Là où tu mets ton attention, c'est ce qui va définir en fait presque potentiellement ta vie, parce que ça va définir ton état d'esprit et donc ce que tu vas être capable de mettre en place ou pas, et l'état d'esprit dans lequel tu vas être. Et ça, je pense que c'est une des choses les plus précieuses avec la santé qu'on a en fait, c'est l'état d'esprit qu'on va se construire. Quelle mentalité tu vas avoir au quotidien, quelle est ton approche face à, par rapport à n'importe quel événement, comment tu vas réagir. Et donc, encore une fois, moi j'essaie de véhiculer à ma petite échelle ce qui, moi, me permet d'être le plus serein dans ma vie, d'avancer dans une vie qui a du sens et de faire face aux adversités, aux problématiques, aux échecs, aux réussites, etc. Donc voilà. Deuxième habitude, tu vas voir que le reste sera beaucoup plus léger, je te promets. Mais je voulais commencer par celle-là, comme ça, voilà, je prends le temps d'en parler et puis je suis un peu plus court sur le reste. Deuxième habitude que je te conseille, c'est de te procurer un agenda journalier. Alors personnellement, si tu veux le modèle, j'ai recherché parce que ça fait des années, ça fait au moins 4 ans que je m'achète un agenda journalier. Mais en fait, si tu veux, moi j'ai le Moleskine Daily Planner 2024. Donc tu pourras taper ça dans Amazon ou n'importe où. Tu peux aller dans une librairie, machin ou autre, pour une papeterie pour en acheter un. Mais moi, ce que je trouve vraiment important, c'est d'avoir vraiment une page. Je pourrais pas te mettre une image dans un podcast malheureusement, mais d'avoir une page, si tu veux, dans laquelle j'ai mes différentes journées en fait de la semaine, dans lesquelles je vais avoir assez pour noter peut-être 4-5 lignes sur mes vraiment priorités de la journée, et une page vraiment de notes sur la droite, à chaque double page si tu veux. Donc j'ai ma semaine et j'ai ma page de notes un peu plus grande du coup sur la droite, où je peux noter des notes en plus en vrac par exemple. Et donc en fait ça me permet de, chaque fin de session de travail, de noter pour le lendemain ce que je dois faire comme priorité. Et ça me permet d'être tous les jours en fait d'être cohérent et d'avancer, et de pas me distraire, et de pas chaque fois attaquer ma journée en mode qu'est-ce que je dois faire, où je m'étais arrêté après machin et tout. Et ça a changé ma vie depuis quelques années, donc je conseille vraiment, procure-toi un daily planner, celui que je t'ai cité par exemple, ou un autre, et note vraiment, parce que ça va te permettre de vachement plus structurer ta façon d'avancer. Troisième habitude que j'ai notée, fixer tes priorités sur les 3 prochains mois, tous les 3 mois, du coup, que ce soit pro ou perso. Ça fait quand même des années, tu vois, maintenant que j'entreprends, et j'en arrive, il y a plein de méthodes, t'as 6 mois, t'as 1 an, t'as 1 mois. Franchement, moi, ce que je préfère, c'est vraiment planifier pour avoir un peu plus de recul sur 3 mois. Tu peux planifier sur plus loin, mais sur 6 mois, il y a tellement de choses qui vont évoluer. 3 mois, je trouve ça très bien parce que ça te permet de te projeter quand même. Et j'essaie de fixer un gros objectif, on va dire, dans le cadre de mon activité, pour rester dans une thématique plus simple, un gros objectif par mois. Par exemple, là, pour le mois de janvier, je voulais absolument boucler, réussir son PVT Australie, c'est fait, j'en suis extrêmement heureux, mais je veux aussi boucler le guide complémentaire et la ruée vers l'or. Et c'est mon gros objectif pour là, janvier, je veux absolument que ce soit fini, et potentiellement en bonus, si j'ai eu le temps déjà de mettre en place les tunnels de vente par rapport à ça, avec les bannières sur le blog, etc. Donc si j'arrive à ça, je serai extrêmement heureux, je pense que pour l'instant, je suis sur la bonne voie, mais voilà. Donc ça, par exemple, tu vois, c'est un objectif clair pour le mois de janvier, et j'ai fait pareil pour février et pour mars. Et après, c'est pas grave s'il y a un mois où je vais pas réussir, je vais le décaler d'un mois et puis je décalerai le reste. Mais 3 mois, en fait, c'est quand même assez flexible. Donc, ça, c'est une bonne chose aussi. Maintenant, je pense qu'on va passer un petit peu plus à des habitudes, des habitudes quotidiennes, on va dire, slash santé, hygiène de vie, parce que il n'y a rien à faire, en fait. Si t'as pas l'énergie, en fait, t'es pas capable de faire tout ce que tu veux accomplir derrière. Donc, c'est pour ça qu'à la base, moi, je pense que c'est extrêmement bien de d'abord s'assurer d'avoir une bonne routine, d'éviter les choses qui nous pompent notre énergie, qui nous pompent ou qui voilà, vont abîmer notre santé de manière générale, qu'elle soit physique ou mentale. Donc voilà, pour commencer, je conseille vraiment de supprimer les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Je sais que c'est devenu malheureusement une habitude sociale de regarder la télé, de regarder Netflix, de scroller sur son téléphone. C'est vraiment un truc qui va avoir un impact monumental sur ton sommeil si t'es pas très content de ton sommeil. Si t'as un sommeil excellent, bah tant mieux, et que t'arrives à taper des écrans et sans avoir de problème, je pense que il y en a pas beaucoup, mais je pense que c'est possible et tant mieux pour toi. Ça veut pas dire potentiellement que ça affecte pas toutes tes pensées et tout ce que tu dois processer derrière, parce que ton cerveau, en fait, il accumule tellement d'informations à notre époque qu'à un moment donné, il faut bien qu'il utilise le temps où il va pouvoir un petit peu se reposer pour processer tout ça. Et donc, c'est comme si tu accumulais de la data, en fait, qui va être traité en attente, tu vois. Donc, plus tu accumules des trucs, plus il va galérer et être en permanence en surcharge. Donc, je pense encore une fois que si nos ancêtres ou des générations précédentes étaient peut-être plus facilement heureuses, c'est parce qu'elles avaient moins d'informations. D'ailleurs, il y a des chiffres qui ont déjà été sortis, alors je ne sais pas à quel point c'est véridique, mais que genre aujourd'hui, en une journée, tu as peut-être autant d'informations qu'une personne il y a 100 ans en l'espace d'une vie, tu vois. Ce qui ne serait pas complètement impossible, vu le nombre de spots publicitaires, de lumières, d'informations, de pubs partout, et de posts sur les réseaux sociaux, machin et tout, donc ce n'est pas impossible. Mais bref, voilà, faire déjà, supprimer les écrans si tu le peux. Alors je dis pas qu'il faut être absolument 1 heure, moi parfois c'est 45 minutes parce qu'on va quand même se faire un petit épisode, mais j'essaie quand même d'avoir au moins une demi-heure, 45 minutes où je vais faire d'autres choses, et ça j'y viens juste après. Cinquième conseil que je peux te donner, enfin plutôt habitude à avoir, c'est d'avoir une routine du soir. Donc là justement j'y viens, tu peux très bien te faire, nous c'est ce qu'on fait maintenant, ponctuellement, on se fait un épisode d'une série qu'on aime bien, et puis je vais toujours avoir ma routine du soir qui va être en général de m'étirer un petit peu pendant, ça dépend parfois de 5 à 15 minutes, ensuite lire, ça je vais toujours me poser pour lire au moins 15-20 minutes, et ce que je fais même avant de lire, j'aurais dû le dire dans l'ordre, donc je fais étirement, machin, un petit peu, etc. Ensuite je vais aller au lit tout simplement, en général on va au lit plus ou moins la même heure avec Teresa, donc c'est quand même assez pratique, enfin on n'a rien à faire, on a un peu nos habitudes ensemble de toute façon, mais ensuite je vais méditer slash faire de la cohérence cardiaque pendant 5 bonnes minutes. Pour ça j'utilise une application qui s'appelle Petit Bambou, qui est gratuite et qui est très bien, donc moi je fais cohérence cardiaque et pour tout dire je crois que je fais 6 secondes inspirées, 2-3 secondes bloquées, 6 secondes expirées, 2-3 secondes bloquées comme ça, et je fais ça pendant 5 minutes et tu fermes les yeux et tu vas voir que tu vas faire baisser ton rythme cardiaque et tu vas faire que, enfin, moi je trouve que c'est une bonne habitude que j'ai, maintenant ça fait au moins 2 ans que je fais ça. Ensuite, ma dernière phase, c'est simplement de lire. Et là, je vais lire jusqu'à ce que vraiment je me sente vraiment presque partir ou m'endormir. Et en général, pour tout dire, on se couche assez tôt. Genre entre 22h et 22h30, c'est vraiment l'heure à laquelle on se couche, enfin, on décide de dormir. Donc voilà, je vais lire en général, ça va dépendre, ça va varier, mais de 15 à 30 minutes en général, parfois un peu plus, ça dépend. Donc avoir une bonne routine du soir qui va favoriser et préparer en fait, si tu veux, ton cerveau au sommeil. Et ça, ça a un impact vraiment important aussi sur le sommeil. Ensuite, sixième habitude, bah, c'est d'avoir des heures de coucher et de réveil régulières, y compris les week-ends. Donc ça, on en vient, alors je ne suis pas un expert là-dessus, mais c'est par rapport au cycle circadien aussi. Plus tu vas entraîner ton cerveau à se coucher à une telle heure et se lever à une telle heure, bah, plus en fait, il va savoir à quel moment il peut vraiment pleinement se reposer. Et en final, quand il pense, ça n'a pas vraiment de sens de se dire... Notre cerveau, en fait, il s'en fout du salariat, tu vois. Et du coup, pendant la semaine, il ne va pas s'adapter de se dire, OK, la semaine, on travaille, donc je vais me lever à cette heure-là et à me coucher à cette heure-là. Et le week-end, on fait la Java et on peut se lever à 11h, machin et tout. Tu peux, évidemment, je ne sais pas si on te dit quoi faire, mais moi, je pense qu'on essaye un maximum. Et d'ailleurs, bon, nous, je t'avoue qu'on sort plus jamais, quoi. Enfin, je veux dire, sortir en boîte ou j'en sais rien, ou aller dans un bar et boire jusqu'à pas d'heure, machin. Ça fait longtemps que je me suis plus mis de mine comme ça. Je me suis mis des mines, enfin, quelques mines. On va dire deux, je pense, plus ou moins au Nouvel An, parce que c'était des retrouvailles avec des potes et que de toute façon, on avait notre logement, etc. Donc oui, là, clairement, c'est des jours un petit peu où on fait un peu plus la bringue et on boit un petit peu plus. Mais sinon, dans ma vie quotidienne, c'est plus quelque chose dont j'ai besoin du tout, de devoir boire de l'alcool, sortir, etc. C'est plus quelque chose que j'aime bien faire. J'ai d'autres façons de passer du temps avec des amis et du temps qualitatif à mes yeux. Mais donc voilà, essayer d'avoir des heures de coucher et de réveil les plus fixes possibles tout au long de l'année. Et souvent, ce qui aide, ça je sais, je fais une petite digression, mais par exemple, si tu as l'occasion de voir le coucher de soleil, apparemment c'est extrêmement positif pour préparer le cerveau au sommeil. Parce que c'est une question de couleur, la nature est bien faite. En fait, quand il y a un coucher de soleil, que tu peux en profiter, si tu veux, l'évolution des couleurs, c'est les couleurs parfaites pour, et qui ne peuvent pas être reproduites autrement, c'est les couleurs naturelles parfaites qui vont permettre à ton cerveau d'assimiler vraiment qu'il y a une transition entre le jour et la nuit. Et tu vois bien que la nature est bien faite, je trouve, parce que bah, en fait, ça te prépare en fait, à l'obscurité, et donc bah, probablement faire comprendre à ton cerveau que la nuit, bah, notre cerveau est fait pour se reposer. Donc voilà. Septième habitude que j'ai notée, c'est au réveil cette fois-ci, c'est d'avoir 10 à 15 minutes de réveil musculaire slash articulaire au réveil. Et donc ça c'est un truc que j'avais entendu parler dans un programme il y a déjà de nombreuses années. C'était un autre entrepreneur qui parlait de ça et du coup il mettait un lien vers une vidéo et en fait j'ai suivi cette vidéo-là pendant je dirais 6 mois et ensuite je me suis fait ma propre... Sur base de ça, je me suis fait ma propre routine et donc maintenant, tous les matins, j'ai vraiment... Ça va varier, parfois je vais avoir moins l'envie, moins le besoin, je vais faire que 5 minutes, je vais faire quand même un petit peu l'essentiel, genre la nuque, le dos, des rotations de la colonne vertébrale, les genoux, ce genre de choses, un peu la base, mais parfois je vais carrément faire 15-20 minutes parce que j'ai envie de faire plus. Donc, et si tu le peux aussi, voilà, ici c'est l'hiver au moment où j'enregistre aussi, donc c'est plus compliqué à l'extérieur, mais si tu le peux, bah, le faire potentiellement pieds nus dans un jardin à l'extérieur le matin, par exemple au printemps ou à l'été, c'est beaucoup plus agréable, parce qu'en plus tu vas faire du grounding, donc tu vas te connecter à la terre, et ça a des vertus extrêmement positives également, et c'est quelque chose que je fais clairement quand les conditions climatiques le permettent. Donc voilà, je te mettrai pas de lien, je sais plus exactement, ça fait longtemps que j'ai perdu d'ailleurs ce lien-là, mais moi je te conseille juste de taper routine, réveil musculaire, articulaire, matinée, tu verras quelques vidéos, tu trouves une qui te plaît, fais un truc, mais vraiment simplifie-toi le truc si la vidéo est trop complexe, tu vois, mais c'est mieux de faire 10 minutes de trucs simples que de rien faire du tout. C'est même mieux de faire une minute que rien du tout. Tu vois, donc essaye, moi je te vraiment, c'est un truc qui te permet d'avoir plus d'énergie dès le début de la journée, sans devoir te taper une douche glaciale, parce que maintenant c'est à la mode de prendre des douches glaciales tout le temps. Donc ça, c'est un truc beaucoup plus doux, beaucoup plus simple, et qui te permet de, en plus, gagner en mobilité, d'avoir moins de chances de te blesser du coup, et en plus de te réveiller progressivement. Moi je trouve ça extrêmement positif, et en tout cas moi j'ai ressenti les effets sur mon énergie dès le matin. Huitième habitude que j'ai notée, je pense, s'habituer à regarder les ingrédients de ce que tu achètes. Et pour ça, il y a une application qui est très simple qui s'appelle Yuka. Alors, je ne dis pas que les recommandations sont parfaites, encore une fois, c'est inclure dans un schéma global. Il y a parfois des notes très bonnes de Yuka avec lesquelles moi je ne vais pas forcément être d'accord, mais qui suis-je moi pour contester? Mais ça reste quand même une application qui est très pratique et qui permet rapidement de voir les additifs, les conservateurs et potentiellement, oui, de détecter en fait ce qui va vraiment être très mauvais à acheter. Et au début, ça fait quand même pas mal de temps, ça fait progressivement. Je t'avoue que je ne me suis pas levé un matin en me disant je vais checker tout ce que j'achète. Mais oui, j'ai pris l'habitude ponctuellement de checker avec Yuka. Et même après maintenant, moi, j'essaye en fait d'avoir des règles de base qui sont de privilégier le moins transformé possible, le plus brut, le plus frais en fait, et le plus naturel possible. C'est des choses un peu de base. C'est-à-dire que si je vois un truc qui a 30 ingrédients, pour un truc de base, en fait, si tu veux, si je vois houmous par exemple, qui se retrouve avec 20 ingrédients, je me dis, bon, il y a quand même eu pas mal de transformation et de process et d'ajout de machin à la base qui devait pas être là. Je préfère vachement avoir, je sais pas moi, du beurre à base de lait cru, parce que là, il y a un putain d'ingrédients, c'est de lait cru qui a été travaillé pour en faire du beurre. Donc, il y a plein de choses comme ça. C'est comme, voilà, aussi le faux mythe un petit peu des laits végétaux. Bah, certains laits végétaux, vas-y, regarde la liste des ingrédients, tu verras une dizaine d'ingrédients, tu diras, mais en fait, pourquoi est-ce qu'ils mettent 10 trucs dans un truc qui est supposé juste du lait d'amande ou du lait de soja, par exemple, tu vois. Et c'est se demander aussi à quel point le produit d'origine a été transformé et passé par des processus. Et donc, c'est pour ça que je dis le plus frais, le plus local, le plus naturel, il n'y a rien à faire. Le problème, ce n'est pas tant de tomber dans une façon de manger ou on va dire, un dogme alimentaire, mais c'est plus de savoir quelle est la richesse, comment c'est fait, quelle est la qualité, d'où ça vient, tu vois, et à quel point c'est transformé par rapport à ce que c'était à la base et à quel point c'est adapté à notre organisme. C'est plus la richesse des nutriments que savoir, ok, il faut absolument manger et suivre ce dogme-là ou ce régime-là, tu vois. Moi, je trouve que c'est devenu absurde, en fait, de devoir absolument mettre tous les régimes alimentaires dans des box. Mange ce qui est bon pour toi, mange équilibré, mange. Il y a toujours ces vieux dictons de grand-mère, tu vois, mais que ma mère m'a souvent répété, c'est un peu de tout un peu. C'est-à-dire essayer de manger un petit peu de tout et de ne pas abuser aussi bah, de tout, simplement. Et donc, essayer de trouver un équilibre et puis après trouver ce qui toi te convient le mieux en fonction de comment tu vas t'écouter, de comment tu digères, est-ce que tu as des ballonnements après ou pas. Et progressivement, bah, ça, je pense que ça travaille pendant des années. Mais voilà, déjà, prendre un bon réflexe, c'est voilà, potentiellement de regarder un petit peu les ingrédients, de prendre cette habitude-là et de voir à quel point tu vas avoir des conservateurs. Par exemple, je sais que la charcuterie pré-emballée sous vide, etc., est souvent plein de trucs extrêmement nocifs, de conservateurs, machin. Donc, c'est des choses, ça fait très longtemps qu'on n'achète plus. Mais voilà, je pense que c'est une habitude simplement à prendre. Et encore une fois, il faut suivre des personnes qui sont plus calées que moi sur ces sujets-là, naturopathes, etc., qui sont extrêmement intéressants et qui ne tombent pas dans des dogmes. Les bons naturopathes, ce sont des gens qui vont te dire c'est toujours adapté à l'individu. Si tu as d'office un créateur de contenu sur l'alimentation ou la nutrition qui lui te dit Team VG dans son profil, c'est Team VG, tu vois, machin, mais en fait lui, ou Team Carnivore, hein, n'importe où c'est des deux côtés, bah lui en fait il est dans un dogme. Il n'est pas en train d'adapter, de donner des conseils par rapport aux individus, parce qu'on est tous différents, on a tous des besoins qui sont quand même globalement similaires, mais notre corps est complètement différent à chacun, c'est-à-dire qu'il ne le processe pas de la même façon. Moi je sais que je peux manger des choses bien plus grasses avec des bonnes graisses, etc., ou des bons sucres, parce que mon corps va plus vite les assimiler, les digérer qu'une personne qui va avoir un système digestif plus lent, qui elle va clairement prendre beaucoup plus de kilos que moi en mangeant le même régime que moi. Donc c'est des choses encore une fois adaptées. Donc là on en revient aussi encore une fois à pas tomber dans des gens qui sont dans des dogmes et qui vont nous les transmettre, mais à rester avec des gens qui sont mesurés et qui nous intéressent, nous inspirent, et on prend un petit peu de tout. Neuvième habitude à incorporer, celle-là aussi elle est extrêmement importante pour toutes les personnes qui ont l'impression d'être toujours être dépassées par les événements, de ne pas pouvoir se poser les bonnes questions, d'être un peu perdu pour trouver des réponses, c'est d'aller marcher en nature au minimum, au grand minimum, une fois par semaine. Et je dis au grand minimum parce que moi, c'est parfois des phases où je vais y aller tous les jours. Et c'est pas tout le temps que j'y vais tous les jours, mais il y a des phases où je me dis j'ai plus envie souvent d'aller marcher en fin de journée, etc. Et c'est pas dire absolument aller en nature. Et parfois, je vais juste aller me balader, surtout là en hiver, où on a des températures souvent négatives, même en fin de journée. Je vais aller me balader parfois, ça peut être 20 minutes, ça peut être une demi-heure. Parfois, quand il se fait beau, forcément, on va aller faire des balades plus longues. Mais vraiment, essayer d'aller une fois par semaine, toi, pleinement en nature, c'est vraiment l'idéal. Parce qu'en fait, tu vas pouvoir discuter avec toi-même. Et quand je dis te balader. C'est sans musique, sans podcast dans les oreilles. C'est vraiment juste avec toi-même. Idéalement, laisser le téléphone à la maison. Donc, si tu le peux, c'est, et même, encore une fois, en nature, c'est-à-dire un parc, un endroit où il y a des arbres, je ne sais pas, si tu ne peux pas forcément aller en pleine forêt, bah, l'espace le plus naturel que tu puisses trouver, crois-moi que ça a un effet positif. Les gens se demandent tout le temps, c'est quoi la recette miracle pour être heureux, pour pas avoir des problèmes, pour pas machin et tout. C'est des petites choses comme ça, qui s'accumulent et qui ont des effets positifs sur le quotidien. Dixième et dernière habitude, avant la bonus, c'est de traquer ton temps. Là, c'est plus par rapport au professionnel, mais c'est de traquer ton temps de travail professionnel, on va dire. Quand tu travailles sur tes projets, utilise un outil. Alors, tu peux celui-là ou un autre, mais moi, j'aime bien celui-là, c'est Toggle Track. Donc, ça s'écrit, c'est un peu bizarre, mais ça s'écrit Toggle.track. Et en gros, c'est gratuit, hein, tu crées un compte et en fait, tu pourras créer des actions. Donc, moi, par exemple, je vais avoir formation, je vais avoir podcast, je vais avoir emailing, je vais avoir Instagram, machin. Et en gros, c'est à chaque fois que je lance une tâche ou que je fais quelque chose, bah, je vais l'encoder, ça tourne derrière, si tu veux. Et ensuite, je la stoppe et ça me permet de savoir où va mon temps durant la semaine. Et ça, c'est pas grave si t'es pas à temps plein sur ton projet, machin, on s'en fout, même si tu veux consacrer, bah, tu verras concrètement combien de temps tu consacres à ton projet. Et en fait, c'est sûr que c'est une habitude à prendre. Donc moi, par exemple, je crois que c'est sur ma page d'accueil, donc c'est un des trucs les premiers que j'ouvre à chaque fois. Et ça me permet de voir clairement dans quel... combien de temps je consacre déjà à mon activité par semaine et de savoir aussi ce qui me prend le plus de temps. Donc, et après, tu peux aussi mettre des objectifs. Par exemple, si toi, ton objectif, c'est d'avoir, je sais pas moi, 50% de ton temps qui est dédié à une formation sur laquelle tu veux bosser et 50% sur de la création de contenu, bah, après quelques semaines, tu vas voir si ta moyenne est plus ou moins respectée ou si tu dois un petit peu changer. Mais donc, voilà, un petit peu un bon outil que je peux te conseiller et c'est une bonne, très bonne habitude à prendre parce que c'est souvent difficile d'améliorer, de travailler des choses qu'on ne mesure pas. Ça, c'est aussi une bonne règle. Onzième et dernière habitude, qui est un peu une habitude bonus, mais que moi j'expérimente depuis plusieurs mois, comme je t'en parlais en début d'épisode, qui a fait une grosse différence, en tout cas je pense, c'est d'avoir défini une journée, ce que j'appelle un petit peu régénérative, par semaine. Et tu vas me dire qu'est-ce que c'est que cette histoire, ou régénération, je sais pas comment l'appeler, mais je sais pas, c'est même pas un nom qui est très vendeur, je te promets, mais pourtant c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Donc moi ça fait quand même maintenant plusieurs mois que le dimanche, tous les dimanches, sans exception, c'est ma journée régénérative à la fois pour mon corps et mon esprit. Ce que ça veut dire par là, c'est pas un délire spirituel, même s'il y a peut-être un petit peu de spirituel derrière, j'en sais rien, mais c'est une journée dans laquelle je veux que mon esprit et mon corps puissent vraiment pleinement se reposer de la semaine que je leur ai apposée, parce que je fais quand même pas mal de sport, parce que j'ai une activité intense intellectuellement de par l'entrepreneuriat, qui, avec pas mal de choses auxquelles je dois penser, etc. Parce qu'on a tous des vies actives où on fait quand même en train de faire pas mal de choses tout au long de la journée. Donc je veux une semaine, je trouve que c'est pas absurde dans le monde moderne, à l'époque où nos grands-parents et nos parents pouvaient beaucoup plus s'embêter et avoir des phases où ils faisaient rien, ils avaient rien à faire, même s'ils travaillaient dur aussi, mais je pense qu'ils étaient moins déjà... par exemple, nous, quand on se repose, on est sur des écrans, donc en fait, c'est crevant pour le cerveau, donc c'est un peu contre-productif. Mais donc le but, c'est d'avoir une journée par semaine dans laquelle je peux pleinement me reposer, que ce soit mon corps et mon esprit. Si je te donne un exemple de dimanche pour nous, enfin en tout cas pour moi, Teresa fait un peu ce qu'elle veut, mais globalement Teresa est une fille beaucoup plus posée que moi, qui est beaucoup plus à prendre le temps de faire les choses de manière générale, donc ça se met plutôt bien. Mais le dimanche, on va se faire un excellent petit déjeuner, on va se faire des bons pancakes, on va se faire un truc vraiment où on se fait plaisir, tu vois, où on s'en fout, ça nous prend une heure ou deux de faire le petit déj et de manger. Je vais pas mal lire aussi en général les dimanches. Je vais ranger, s'il y a des trucs à ranger, je vais mettre de l'ordre dans mes affaires, dans mon bureau, machin ou autre. On va faire une machine si besoin, des trucs comme ça. Je vais faire du ménage aussi, on va faire du ménage, il y a des trucs particuliers à faire. Mais ce qui est bien, c'est que même les tâches en fait, que tu repousses tout le temps, bah là, tu as une journée en fait, pour les faire. Donc, en fait, tu n'as jamais de grosses tâches en, fait, en attente ou tu es dépassé. On va souvent marcher aussi assez longuement et ça peut apporter le temps. Ça, c'est, j'avoue que c'est souvent moi qui l'embête plus parce que même parfois, quand il va faire vraiment froid ou quand il fait pas beau du tout, je veux vraiment aller marcher plus longtemps. Je vais parfois m'étirer, je vais parfois faire un épisode de podcast. Ça a des seuls trucs que je m'autorise à faire qui va être en lien, on va dire, d'une certaine manière avec des écrans. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas d'écran. C'est-à-dire que je ne vais pas, par exemple, toucher à mon ordinateur. À part peut-être le soir si on se fait un épisode d'un truc, tu vois. Mais je pourrais te mentir et te dire que non, je ne touche absolument pas mon écran. Ce serait de mentir. Certains dimanches, en fin de journée, vraiment, on va se faire un petit épisode d'une série qui nous plaît, machin, parce qu'on est dedans en ce moment, tu vois. Mais sinon, la journée, je ne touche pas à mon écran d'ordinateur et absolument pas, encore moins aux réseaux sociaux, tu vois. Mon téléphone, je ne sais pas, je l'utilisais, je ne sais pas moi, pour répondre à des messages, par exemple, que j'ai sur un WhatsApp des potes en retard ou des trucs comme ça. Mais sinon, je ne vais pas faire du tout du scrolling, je ne touche pas Instagram. Je partage souvent la capture d'écran le lundi sur Instagram, justement, que j'ai passé. J'ai une application qui s'appelle OneSec, qui est d'ailleurs voilà, une bonne habitude aussi que j'aurais pu rajouter. Mais OneSec, en fait, c'est surtout sur iPhone. Ça permet de mettre un temps de chargement avant que chaque fois que tu cliques sur Instagram et ça te fait réfléchir à deux fois. sur est-ce que tu as vraiment besoin d'aller sur Instagram là maintenant ou pas. Et c'est une bonne application. Et du coup, ça permet de voir aussi depuis combien de temps tu n'as pas ouvert Instagram. Et souvent, le lundi, je vais mettre, ça fait genre, je sais pas moi, 36 heures que je n'ai pas touché à Instagram, par exemple, tu vois. Donc bref, bah voilà, écoute, je pense que c'était un épisode qui était pas mal. Je vais rester sous la demi-heure. Merci de m'avoir écouté. Je pourrais récapituler, mais ça fera un petit peu long. Du coup, je vais récapituler rapidement si jamais besoin. Ça sera peut-être plus clair. On a fait numéro 1, faire un énorme tri dans tes abonnements Instagram, YouTube et slash les plateformes aussi. En même temps, en parallèle, se poser la question, est-ce que cette personne-là m'attire vers une bonne façon de penser et est-ce que cette personne-là est vraiment bien dans ses baskets à tous les niveaux. Numéro 2, te procurer un agenda journalier. J'ai tapé moi le Moleskine, enfin j'ai indiqué moi le Moleskine Daily Planner 2024 qui est celui que j'utilise. Numéro 3, fixer tes priorités pour les 3 prochains mois, tous les 3 mois, vraiment le gros focus. Numéro 4, supprimer les écrans au moins une heure avant d'aller dormir. Numéro 5, avoir une routine du soir. Donc moi, c'était m'étirer souvent. Ça va être méditer, faire de la cohérence cardiaque pendant 5 bonnes minutes et ensuite lire. Ça va être avoir des heures de coucher et de réveil les plus régulières et les plus fixes possibles, y compris les week-ends. Numéro 7, avoir 10 à 15 minutes de réveil musculaire, on va dire 5 à 15 minutes de réveil musculaire articulaire au réveil. Tu vas voir que ça va changer ton niveau d'énergie et ça va te permettre de gagner en mobilité, etc. Numéro 8, s'habituer à regarder les ingrédients de ce que tu achètes et essayer d'aller vers du plus frais, naturel. Si tu peux aller chez un producteur local, c'est l'idéal, machin, savoir comment c'est fait, etc. Numéro 9, marcher en nature au moins une fois par semaine. Ça peut être une heure, mais sans téléphone idéalement. Ça peut être même 30 minutes, c'est mieux. Encore une fois, même 15 minutes serait mieux que 0 minutes, tu vois, si t'as vraiment pas le temps. Numéro 10, traquer ton temps de travail professionnel sur Toggle Track. Et numéro 11, en bonus, c'est essayer, si tu le peux, après ça, je sais que c'est pas applicable à tout le monde. Par exemple, si tu bosses déjà à temps plein et que tu veux bosser sur ton projet en parallèle, je sais que ce sera compliqué. C'est pas une obligation, c'est pour ça que je mets un peu en bonus. Je pense qu'effectivement, si tu as un job à temps plein et que c'est compliqué de bosser sur ton projet la semaine, il faudrait peut-être que tu utilises les week-ends. Donc, encore une fois, ça peut être OK, en fait, de mordre un petit peu sur ta chic pendant une période pour le temps de développer ton projet, pour ensuite potentiellement réduire ton temps de travail, par exemple, passer en 3/4 temps, ce genre de choses. Mais donc, numéro 11, c'est essayer, quand tu le peux, ça peut être parfois aussi des moments ou des demi-journées par exemple, mais d'avoir un moment de régénération pleinement pour ton corps et ton esprit, c'est-à-dire où tu lui émets aucune obligation, il peut complètement se reposer à la fois mentalement et physiologiquement. Bref, je pense qu'avoir fait un bon récap, je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais te dire. Je pense que je prépare des épisodes un petit peu sur le projet du PVT, mais aussi sur l'expatriation dont je vous parle depuis pas mal de temps pour les prochains. N'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications. J'ai expliqué dans le dernier épisode comment faire. Tu vas simplement sur ton profil Spotify, si tu es sur Spotify, tu vas dans préférences, notifications, et tout en bas, tu pourras un peu activer les notifs pour les podcasts qui t'intéressent et donc choisir ceux pour lesquels tu veux une notification. Et puis voilà, si tu veux laisser une petite note partagée, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et puis si vous m'écoutez à deux, merci de m'écouter à deux. Je sais que vous êtes pas mal à faire ça aussi maintenant. Donc bref, prenez bien soin de vous et surtout, n'oublie jamais que ta vie est ce que tu en fais.